Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Profession, écrivain. Michel Denisot reçoit Aurélien Bélanger, Frédéric Becbédé, Tatiana de Ronay, Joël Dicker, Philippe Génada, Amélie Nothomb et Leïla Slimani.
Bonsoir, tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? On va voir les réponses dans cette émission avec un Goncourt, un Renaudot, un Féminin, un Prix de Flore, et beaucoup de prix et beaucoup de best-sellers, des millions de livres vendus. Mais d'abord, est-ce que écrivain, c'est la bonne définition pour le métier que vous exercez, Leïla Slimani?
Oui, c'est la bonne définition, je crois, pour le métier que j'exerce, qui est d'écrire. Donc, c'est le meilleur thème. Écrivaine, peut-être.
Ouais.
Ça m'énerve souvent parce que les gens me disent « mais dans écrivaine, il y a veine ». Je dis « mais dans écrivain, il y a vin ». C'est assez bizarre, on entend beaucoup plus le veine dans écrivaine que le vin dans écrivain. Mais oui, moi je suis écrivaine.
Tout le monde est d'accord, c'est écrivain, c'est pas romancier.
Non, moi j'aime pas écrivaine. J'aime pas écrivaine parce que je pense qu'un écrivain comme Leïla mérite d'être comparé à Marcel Proust et donc pas d'être cantonné à son sexe. Mais bon, on va pas en débattre pendant 4 heures.
Non. Donc tout le monde est d'accord sur écrivain.
Moi j'aime bien romancier.
Romancier.
Mais en fait, je fais pas que écrire des romans, donc en fait, je suis obligé d'accepter le terme écrivain.
Ouais.
En anglais, c'est plus pratique, on dit writer. On s'embête pas.
D'accord.
Auteur.
Auteur. Amélie.
Oh, tout ce qu'on voudra.
Très bien.
Joël. Écrivain aussi, ouais.
Ouais. Alors comment le devient-on et pourquoi le devient-on? La première question, c'est pourquoi écrivez-vous, Amélie?
Parce que j'ai eu la vie sauvée par les excellents livres que j'ai lus à l'adolescence. Et m'est venu un moment où je me suis dit, si je pouvais faire des trucs qui sauvent les gens, comme moi-même j'ai été sauvée à l'adolescence par des livres juste incroyables, ce serait juste énorme.
Vous étiez sauvée parce que vous étiez en difficulté?
J'étais en grande difficulté. Existe-t-il des adolescents qui ne sont pas en grande difficulté? Sincèrement, sans tous les livres que j'ai lus dès l'adolescence, je suis sûre que je serais morte.
Ouais, Philippe, Génada, vous écrivez pourquoi?
Alors moi, c'est lié à la question comment êtes-vous devenu écrivain, en fait.
Ouais.
Donc je ne sais pas si j'y réponds avant ou on va en parler après. De comment
oui, on va en parler après, ouais.
Donc,
d'accord.
On en parlera après.
Leïla Slimani, pourquoi vous écrivez?
Sincèrement, je crois que j'écris pour de très mauvaises raisons. Je pense que j'écris pour des raisons assez, parfois même assez viles. J'écris pour me venger. J'écris pour pouvoir être impoli, parce qu'on m'a appris qu'il fallait être poli dans la vie. Donc l'écriture, c'est un espace où je peux être très impoli.
Dites que quand vous écrivez, c'est voilà. Pas vous, c'est quelqu'un d'autre.
Exactement. Ouais. Je crois qu'en plus, je suis quelqu'un d'assez peureux. Moi, j'ai peur tout le temps dans la vie. J'ai très peur. Et l'écriture, c'est un des seuls espaces de ma vie où j'ai jamais peur. Donc c'est peut-être pour ça que j'écris, pour m'offrir cet espace de liberté. Cet
et vous pensez qu'on ne vous assimile jamais à ce que vous écrivez?
Ça, je m'en fiche, en fait. Ouais. Je me fiche complètement de ce à quoi on m'assimile. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je ressens au moment où je suis face à ma feuille ou à mon ordinateur.
Fred?
Pessoa dit qu'il écrit parce que la vie ne suffit pas. En fait, je pense que moi, ma vie m'intéressait assez peu et qu'à un moment, j'ai trouvé que c'était bien de l'améliorer. Et donc de trouver des histoires, de commencer à inventer des choses. Et je commençais à l'âge de 7 ans à tenir un journal. Donc c'est une sorte de maladie. C'est un peu bizarre de vouloir se mettre en retrait de la réalité, d'inventer une autre réalité. Il se trouve qu'en plus, paradoxe, c'est que souvent j'ai parlé de moi. Donc j'ai quand même voulu améliorer ma vie, mais tout en la racontant. C'est très curieux.
Tatiana de Ronay, vous écrivez aussi pour raconter votre vie?
Alors oui, Frédéric a raison, je pense qu'on se met en scène plus qu'on le pense, mais je rejoins Amélie sur la passion de la lecture. Et moi, c'est la petite fille qui aimait lire, qui est passée à l'écriture à cause de la lecture, en fait. J'avais envie d'essayer de raconter les histoires qui m'ont tellement enchantée. Et surtout, je rejoins Leïla sur le fait que on peut complètement échapper au contrôle de l'image que d'autres ont de vous, et notamment quand on écrit tôt. On apprend à écrire en dépit de sa famille, de qui on est, de ses amis. On a cette liberté, en fait, qu'on n'a peut-être pas dans la vie, en tout cas qu'on n'a pas quand on est enfant. Et cette liberté-là, je l'ai prise assez tôt, puisque j'ai écrit, comme toi, j'imagine, sans être lue pendant assez longtemps. Et c'est ça qui m'a donné envie de continuer, cette liberté-là, de la voir et de la garder et de la chérir.
J'ai lu dans un entretien que tu disais que tu avais écrit des livres et que tu les vendais à tes parents. Ben, je faisais la même chose.
Non, moi, ils n'achetaient pas, contrairement
ils achetaient
à toi.
Pas. Ah non, moi, ils les achetaient.
Non, moi, ils achetaient pas.
5 francs.
Ils achetaient les tiens, j'imagine, mais pas les miens.
Je n'ai pas eu une si bonne idée que ça.
Mais non, mais bien sûr. Alors, et évidemment...
5 francs.
Et je crois que tu as ajouté que maintenant, ils étaient stockés dans un endroit...
Dans une boîte où il y a écrit « Ne pas publier si je meurs ».
Voilà.
Mais bon, je vais peut-être changer d'avis si je meurs.
Mais peut-être que la Pléiade voudra publier après ta mort.
Aurélien Bélanger, vous écrivez pourquoi?
Je pense très simplement pour la gloire, parce qu'il y avait un côté, c'est le métier le plus prestigieux du monde, celui qui donne accès le plus facilement à l'éternité. On se rappelle de Dante et à peu près de personne d'autre du XIIe siècle. Et c'était vraiment le premier réflexe. Après, le coup de bol, c'est de découvrir que c'était une gloire sérieuse. C'est pas une gloire à la Napoléon où on peut un peu se ridiculiser seul en Russie. Une gloire littéraire, on accède normalement à un type d'expérience et à un niveau d'intensité vécue qui est un peu plus élevé peut-être que dans d'autres activités.
Ouais, c'est très clairement le plus ambitieux.
Ou le plus sincère.
Sa statue.
Joël Dicker.
Oui, ce que Frédéric disait, ce que tu disais sur la limitation de la vie au fond, ça me parle parce que je crois que moi j'ai un peu cette obsession que on sait tous que la vie se finira, on sait tous qu'on mourra un jour, ce soir, demain, dans 10 ans, pas trop vite. Mais il y a cette
tic-tac.
Mais il y a pour moi cette chose terrible, cette chape. Mais non, pas du tout. Mais il y a cette chape pour moi de me dire que la fin, on la connaît déjà et que c'est le chemin et que sur ce chemin, l'écriture et la lecture, en tout cas pour moi, c'était ça aussi. C'est ce que tu disais, tout à fait vrai. La lecture a été pour moi quelque chose de très fort parce que ça me permettait de sortir de ma propre vie. Et l'écriture a été un moyen d'aller encore plus loin dans cette liberté parce qu'on est le guide total de ce qui va se passer.
Quand est né le désir réellement pour vous, Amélie ? Vous avez commencé par raconter des histoires quand vous étiez enfant, raconter une histoire, puis des histoires.
Oui, mais dès l'instant qu'on écrit, c'est tout à fait différent. Se raconter une histoire, ça n'a rien à voir avec l'acte d'écrire. Je n'ai rien écrit avant l'âge de 17 ans, bien que je me sois raconté auparavant un très grand nombre d'histoires. À 17 ans, je pense que j'avais atteint un tel stade d'autodestruction et de solitude belge que pour sortir de tout ça, la dernière chose que je pouvais encore faire, c'était d'écrire quelque chose. Ouais. Donc c'était rien que pour moi, tu l'as bien compris, Tatiana, je n'ambitionnais même... c'était impossible pour moi de penser que j'aurais même un lecteur. Mais il s'agissait quand même de faire sortir un son de cette machine malade que j'étais.
Et vous, Leïla Slimani, vous avez eu une enfance entourée de livres, une famille très, très cultivée, et l'envie d'écrire est venue...
Mais pour rejoindre Aurélien, moi j'avais une vision comme ça très, très mythique des écrivains. Pour moi, être écrivain, c'était faire la fête, se droguer, avoir des passions amoureuses, voyager. Donc pour moi, c'était ça, être écrivain. Donc je voulais être écrivain, mais je ne me rendais pas du tout compte que pour être écrivain, il fallait quand même écrire. Et voilà, et qu'il fallait quand même rester assis de longues heures dans son bureau et qu'il fallait proposer à quelqu'un. Donc je n'avais pas tout à fait conscience de ça. Donc j'ai mis du temps à m'asseoir à mon bureau et à écrire. Mais voilà, c'est un peu comme Amélie, à un moment, c'est une sorte de nécessité qui vous saisit et le premier texte est arrivé, voilà.
Philippe Ginada, vous avez fait 36 boulots avant d'écrire.
Ouais.
Vous avez été hôtesse d'accueil sur Minitel Rose. Vous avez fait...
Animatrice.
Ouais.
Première animatrice du monde.
Au monde, ouais.
Dans le monde. En France, donc dans le monde.
Vous avez écrit des courriers de lecteurs, de lectrices, ouais. Etc. Et vous avez découvert la puissance des mots à ce moment-là, en fait.
Oui, c'est-à-dire que quand j'étais animatrice, Sophie ou Claire, je m'appelais, j'avais deux identités.
Intéressant.
Claire, la sage, un peu intelligente, Sophie, la canaille. Je disais, c'était très soft et très sobre à l'époque, quand c'était pas comme maintenant sur Internet, je disais, attends, je sors de ma douche, je mets ma culotte et j'arrive. Les hommes de l'autre côté devenaient fous. Une phrase aussi simple. Donc je me suis dit, sur des phrases peut-être un peu plus travaillées. Et en fait, moi, on en vient là à ce qu'on disait tout à l'heure. Et il m'est arrivé un truc... J'étais matheux, je lisais très peu, et j'ai commencé encore plus tard. Mon premier roman, c'est 30 ans. En fait, je perdais la tête quand j'avais 25, 26 ans. Vraiment, je déraillais complètement. Et j'ai trouvé comme solution pour me sortir de là, soit j'avais l'internement psychiatrique, soit il fallait que je fasse quelque chose de fort. Je me suis enfermé chez moi.
Pendant un an.
Un an.
Ouais. Ouais. Tout coupé.
Sans téléphone, sans télé, sans radio, sans chaîne IFI, volet fermé, un an enfermé.
Seul.
Seul. Avec un chat. Et puis c'était une expérience, du 1er janvier au 31 décembre, c'est une expérience. Jusqu'en mars-avril, j'ai trouvé ça très drôle. En avril, j'ai commencé à m'ennuyer profondément. En juin, parce que je me levais, je m'asseyais, je regardais le mur et j'attendais le soir, quoi. Et donc, je pense que si j'avais eu chez moi des pinceaux, de la peinture, une toile, je me serais mis à peindre, juste pour me distraire, enfin pour pas m'ennuyer, et surtout pour que quelque chose sorte de moi. C'est-à-dire que je ne pouvais même pas dire j'ai fait un cauchemar cette nuit ou je me suis tapé le pied dans la chaise, j'ai mal. Je ne pouvais parler à vraiment à personne, je n'ai pas ouvert la bouche pendant un an. Et donc c'est comme ça que je me suis mis à écrire des nouvelles, mais j'aurais pu très bien, si j'avais une guitare, je serais guitariste, je serais profession guitariste là, aujourd'hui. Et ben voilà, pour que quelque chose sorte de moi et pour me distraire.
Aurélien Bélanger, vous avez dit j'étais sûr d'écrire.
Oui, mais bizarrement, mes meilleures années, c'est entre mes 15 et mes 30 ans où j'écrivais vraiment pas du tout. Quasiment pas, j'étais certain de vouloir être écrivain. J'écrivais pas, j'avais pas quasiment pas de micro-roman, pas de micro-nouvelle, vraiment rien. Cette espèce de croyance très forte. Et rétrospectivement, c'est des années qui sont qui sont encore aujourd'hui une ressource. Quand je doute un petit peu, je dis, reviens à ton niveau de 2000 de croyance en la littérature. Et ça marche encore. Et bizarrement, le jour où j'ai signé mon premier contrat d'édition fut un jour assez mélancolique. J'ai pas aimé le fait que d'un coup tout ce possible convergeait vers un objet unique. Et je crois pas énormément aux actes manqués, mais la première fois que j'ai touché un chèque de droit d'auteur, je l'ai jeté. Je l'ai récupéré après dans ma poubelle jaune dans ma cour. Mais il y a eu comme ça. Et c'est bizarre parce que j'étais quand même très content. Mais il y a quand même une part de moi qui pense que l'écrivain potentiel reste vraiment le meilleur écrivain qu'on a probablement tous été. Ou alors c'est très très dur de retrouver, avec un roman fini, le niveau du romancier possible qu'on aurait pu être.
Tatiana de Ronay, vous vous retrouvez dans cette définition ?
Oui, mais je crois aussi qu'il y a quand même aussi une bienveillance aussi au départ. Je me souviens que j'avais annoncé à mes parents que j'avais décidé de devenir écrivain, j'avais 10 ans, et j'avais découvert notamment une certaine Daphné du Maurier. Qui avait une certaine noirceur, hein, c'est vrai, et c'est cette noirceur-là qui m'intéressait, en fait. Et là où je rejoins Leïla, c'est que moi, ce qui m'intéressait, justement, c'était de pouvoir dire des choses que je ne pouvais pas dire dans ma vie de petite fille de tous les jours, donc j'ai commencé à écrire des choses très noires. Et je remercie mes parents de ne pas avoir eu peur ou de ne pas avoir dit « oui, tu devrais quand même peut-être faire autre chose ». Ils ont pris très au sérieux, personne ne m'a dit « tu sais, ce n'est pas un métier rentable, d'ailleurs, ce n'est pas un métier, tu devrais vraiment réfléchir à faire autre chose ». Ils m'ont encouragée, mais c'était quelque chose que personne ne m'a rembarré. Et j'apprécie ça, parce que s'ils m'avaient dit « écrivain, c'est pas un métier, c'est pas important, ça sert à rien », peut-être que j'aurais fait autre chose, je sais pas. Je suis peut-être devenue chanteur de rock.
Ouais, vous avez pu faire un groupe. La lecture vous a illuminé un peu votre enfance ennuyeuse bourgeoise ?
Oui, comment le savez-vous ? Oui, c'est tout à fait juste. Mais je voudrais réagir parce que moi, c'est un peu le contraire. En fait, j'ai fait plein de métiers en même temps parce que je crois que j'avais pas confiance. Je pensais pas que... Je pensais qu'écrivain était un mot trop impressionnant. Et du coup, j'ai pas été animatrice du Minitel Rose, malheureusement.
Ah, moi, j'aurais bien aimé.
J'ai fait plein de choses. J'étais dans la publicité, j'étais journaliste, j'ai fait de la télé, je suis DJ encore régulièrement. Enfin, cette dispersion nourrit mon travail et me rassure, et je me dis toujours que écrivain n'est pas un vrai métier et qu'au fond ça peut marcher un jour et plus le lendemain, etc. Donc je reste très très angoissé par la chance.
Mais tu parles de l'angoisse de la réaction ou tu parles de l'angoisse de la création ? Quand tu dis que c'est pas un métier, c'était
les deux, parce que Leïla disait, c'est vrai que c'est très très. Moi aussi, j'étais fasciné par des écrivains qui avaient l'air d'être assez flamboyants, d'avoir des vies nocturnes, d'être très libres, etc. Mais quand on commence à écrire, on s'aperçoit du labeur que c'est, de l'enfermement, du fait qu'on n'est jamais satisfait de son travail, qu'on trouve toujours décevant ce qu'on écrit. Et donc, si j'avais su que j'allais devoir m'enfermer toutes ces années, bon, en fait, je ne l'ai pas complètement fait.
Non.
J'ai aussi essayé de cumuler les deux, de m'enfermer un peu et de sortir quand même aussi.
Ouais. Mais ça, c'était toujours à la fin, enfin, la mort de Philip Roth, quelques années avant, quand il a décidé d'arrêter d'écrire. Il dit que c'est les années où il a été le plus heureux dans sa vie. Parce que l'écriture, à la fois, l'apporte beaucoup, mais c'est aussi quelque chose d'extrêmement pesant. On a jamais l'impression d'arriver à l'idée du roman qu'on avait au départ dans la tête. Ouais. C'est toujours un exercice de gestion de sa frustration. On est toujours nostalgique, finalement, du roman qu'on avait imaginé et auquel je trouve qu'on n'arrive jamais.
Joël Dicker, c'est un livre offert par votre grand-père quand vous aviez 9-10 ans qui a déclenché votre envie d'écrire.
Oui. Ouais. Oui, à ce moment-là, j'écrivais déjà un petit journal sur les animaux. Et ça a son importance, en tout cas pour moi, parce qu'il y avait à l'époque, je l'imprimais, je l'envoyais par la poste à des gens qui le recevaient une semaine plus tard ou 10 jours, et puis qui lisaient encore une semaine après. Et du coup, ce texte que j'avais écrit un mois avant reprenait vie un mois après, parce que des gens m'écrivaient, me disaient « Ah, j'ai lu ton petit journal, etc. » J'ai eu du plaisir. Et il y avait ce contact avec des lecteurs qui se faisait comme ça, qui existait. Et en même temps, il y avait cette intemporalité de l'écrit qui avait déjà été écrit, qui existait pour moi et qui réexistait après. Et c'est en lisant ce livre, La gloire de Janusz Korczak, que mon grand-père m'avait offert, où j'ai ressenti ça aussi. Et où j'ai eu envie de me dire, est-ce qu'un jour je pourrais être capable de transformer un récit, une histoire que j'invente, en une réalité dans l'esprit de quelqu'un. Mais ce que tu dis est très juste sur l'idée que le meilleur roman, c'est celui qu'on pourrait écrire,
ouais.
Et pas celui qu'on écrit.
Leïla Slimani, c'est le déclic, ça a été la mort de votre père qui vous a désinhibé pour écrire.
Oui, parce que moi, je vivais dans une société très conformiste au Maroc, la société bourgeoise marocaine, mais avec des parents qui étaient très marginaux, avec un père qui ne pouvait plus travailler parce qu'il était opposant politique. Et puis quand mon père a été emprisonné, la seule chose qui lui a apporté du bonheur et qui lui a apporté une forme de liberté, c'était les livres. Donc déjà, je voyais la capacité qu'avaient les livres à ouvrir finalement la cellule, à limer les barreaux de la prison. Et une fois qu'il est mort, je me suis rendu compte qu'en fait, plus rien ne m'attachait à cette société bourgeoise, à cette politesse, à tout ce que je faisais pour plaire à cette communauté qui, de toute façon, m'avait rejetée. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis sentie très libre de tout raconter.
C'est les jeunes filles de Monterland, Amélie Nothomb, qui vous ont... C'est un déclic pour vous.
Il y a eu beaucoup de déclics. Les jeunes filles de Monterland, j'ai découvert ce livre quand j'avais 14 ans, je l'ai relu bien plus de 100 fois. C'est-à-dire qu'au moment où j'étais en train d'acquérir la féminité, je découvrais sous la plume de Monterland cette abomination. ça a fait de moi une grande paranoïaque, parce que... Voilà, en même temps, c'est pas une chimère ce qu'il écrit. Ça existe, de telles femmes existent. Et donc... Je me souviens que je grandissais en me disant « Mon Dieu, ne pas devenir ça, ne pas devenir ça, ne pas devenir ça. » Et en même temps, fascinée, parce que ces personnages féminins que crée Monterland sont des monstres, certes, mais elles sont fascinantes. Et elles existent, et je ne savais pas que j'allais les rencontrer. Donc, devenir écrivain... Bon, je ne savais pas que j'étais en train de devenir écrivain, je n'avais pas du tout l'ambition d'être lu. Il a fallu aussi un formidable échec japonais pour que je me dise... Ma vieille, t'as été dame pipi pendant 8 mois. Qu'est-ce qui peut t'arriver de pire que voilà. Maintenant, ils le savent que t'es bonne caricurée des chiottes. Donc, tu peux envoyer tes livres à tes éditeurs parce que tu ne connaîtras pas d'humiliation pire. C'est vrai, j'ai eu bien des humiliations depuis. Je n'en ai pas eu de pire. Et c'est ainsi que j'ai été publiée. Et c'est ainsi que je me suis rendu compte, parce que j'ai une correspondance très importante avec mes lecteurs et avec mes lectrices, que cette situation est vraie. Les lecteurs et les lectrices vous écrivent et on se retrouve dans des situations absolument insensées.
Aurélien Bélanger, c'est Houellebecq qui a été le déclic.
Le premier déclic, c'était Proust. Parce que c'était merveilleux de se dire qu'on avait comme ressource à portée de main son enfance et que ça suffisait d'avoir eu une enfance pour devenir un écrivain génial. Houellebecq, ça m'a convaincu qu'on pouvait écrire des romans dans un monde... parce que les romans que je préférais jusqu'à Proust étaient des romans du 19e siècle, que le roman était quand même enclenché sur le monde contemporain. Parce que sinon, on avait quand même l'impression que la littérature était une sorte d'ancienne gloire de la France, quelque chose qui était très beau, qu'on ne referait jamais tellement mieux que Victor Hugo en termes d'impact peut-être planétaire de la littérature française. Et Houellebecq a très simplement réconcilié avec le monde contemporain. Ça parlait du monde contemporain, c'était plein d'ambition. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu de roman contemporain qui avait ce niveau d'ambition dans le récit. Donc disons que j'aurais pu devenir un écrivain proustien. Je suis devenu Houellebecco-proustien. Ça m'a empêché d'être ringard, d'avoir découvert Houellebecq. Ouais.
Frédéric, c'est au cours d'une soirée Barry Lyndon, je crois, que vous regardiez de loin, que vous aviez organisé, et vous avez dit « j'ai envie de vivre dans un film de Kubrick ».
Ça, c'est, disons, l'idée de décrire la société, l'idée de oui, comme je dis tout à l'heure, d'améliorer sa vie, d'être mieux que la réalité, d'être dans une autre réalité. Mais avant ça, il y a la lecture de Boris Vian, de Salinger, de tas d'écrivains où j'avais l'impression d'entendre une voix qui correspondait à ce que je pouvais voir autour de moi. Et puis... on n'a pas tellement parlé de la solitude, mais c'est vrai que je pense que le point commun de tous les gens qui se mettent à écrire, c'est de souffrir de ça, de la solitude, d'avoir l'impression d'avoir des choses à dire ou d'avoir envie d'être entendu ou quelque chose, un poids à exprimer, quelque chose qui nous allégerait en le notant sur une feuille de papier. Donc bon, je suis parti de ces obsessions, je prenais beaucoup de notes, j'avais beaucoup de carnets. Et puis c'est devenu mon premier roman, et c'était miraculeux d'être publié à 24 ans, à la table ronde.
Vous n'avez pas souffert, vous ?
J'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais publié très jeune et d'ailleurs, enfin, c'était loin d'être abouti, mais c'était curieusement. Alors moi, j'ai pas eu un acte manqué en jetant le chèque à la poubelle, mais j'avais presque l'impression que c'était un peu tard, 24 ans, parce que j'avais quand même commencé à 8 ans, et donc ça faisait quand même un bout de temps que j'attendais ce moment d'être enfin compris par un éditeur.
Philippe Génada, vous avez parlé de la solitude que vous avez choisie, en fait. Pour,
moi, c'est une maquette, carrément. Moi, c'est tellement caricatural. Ouais. Mais je pense que ce que j'ai vécu, moi, de manière comme ça, artificielle, c'est-à-dire en m'enfermant vraiment, c'est un peu ce qu'a vécu tout le monde, de manière plus diffuse ou moins remarquable. Mais oui, moi, c'était vraiment... Et d'ailleurs, à partir de là, moi, je me suis rendu compte, tout à l'heure, on parlait de l'isolement, de la solitude pour écrire, je veux dire, du travail pénible d'écrivain, mais on a une vie quand même complètement schizophrène, quoi. C'est-à-dire que, je sais pas s'il y a beaucoup d'exemples de métiers, on n'a qu'à dire, ou d'activités, où on est complètement enfermé pour travailler, pour écrire, pendant 6 mois ou 1 an, et tout d'un coup, quand le livre sort, c'est l'inverse. On court partout, on parle partout, on fait le zazou, on va à droite, à gauche, et puis au bout de 4 mois, ou 5 mois, ou 6 mois, poum! On se remet à... Moi, ça me manque, par exemple. On dit, c'est dur. C'est vrai, quand on écrit, on dit, oh là là, je suis vraiment enfermé, on est concentré sur quelque chose. Vivement qu'on sorte et qu'on aille courir un peu partout. Et là, moi, maintenant, ça fait depuis... Avec le féminin, ça, il y a eu un peu d'effervescence et tout ça. Là, j'ai envie de m'enfermer dans mon bureau à clé et de me mettre à travailler. Mais je sais qu'au bout d'un mois, j'aurais envie de sortir... avec Frédéric, aller écouter le DJ.
Est-ce que la solution n'est pas de morceler la schizophrénie ? C'est-à-dire d'être le matin, d'être l'espèce d'ermite qui ne sort pas de chez soi, et l'après-midi, d'être la créature que nous voyons ici.
On en a parlé l'autre jour, et je vous ai dit, Amélie, moi, je n'y arrive pas.
Moi non plus, je n'y arrive pas.
Moi, c'est ce que je fais.
J'ai besoin de ces temps de solitude.
Mais en fait, toi, t'es comme un vampire, total, toi. Ouais.
Moi, je peux pas.
C'est-à-dire que tu apparais à certaines heures de la journée, et tu disparais.
Et tu m'as vu, une seule fois, tu m'as vu à une autre heure de la journée, c'est pas beau. Avoir.
On n'en reparlera pas du tout. Mais je t'aime quand même.
Oui, mais moi, je pense que je suis... C'est marrant parce que j'étais plutôt... je suis en train de basculer de l'autre côté. C'est-à-dire que j'ai été pas mal indiscipliné.
Et pas
je suis
mal,
en train
oui.
de... Voilà. Mmh. Et je suis en train de devenir discipliné en vieillissant. Et c'est assez inquiétant. C'est-à-dire que maintenant, je me mets à mon bureau à heure fixe, comme Tolstoï. Voilà, je suis comme toi tu fais. C'est-à-dire toi à 4h du matin.
Moi, c'est le Japon qui m'a appris ça. Il faut une discipline. C'est un truc de dingue. Alors de tous les matins lever à 4h, sans aucune exception, gueule de bois, deuil, on s'en fout. À 4h du matin, tu t'y mets. Matinée d'enfer parce que évidemment c'est beaucoup trop difficile pour moi. Mais après, dès midi commence l'autre. Vie, donc...
Je crois que c'est moi, ça me déçoit beaucoup de moi d'être devenu comme toi.
Tu as raison.
Alors, la discipline de l'écriture, Joël Dicker, comment vous travaillez ? Vous écrivez
moi,
tant d'heures par jour ?
Mais moi, c'est pas une solitude, parce que justement, quand j'écris, c'est la convocation de tous les personnages, de toute l'histoire. Et je me sens beaucoup moins seul quand j'écris que quand je n'écris pas. Et parfois, pour moi, de quitter ce que j'écris pour rejoindre des amis, pour rejoindre un dîner, pour rejoindre des gens... c'est difficile. Et j'ai l'impression que les personnages me suivent et sont avec moi, et je crois que je préfère être avec eux. Et ça commence en général tôt aussi. Quand je peux, je me lève vers 4h du matin, et j'écris jusqu'à 6h du soir.
Ouais. Dans un local précis.
J'ai un bureau, ouais. Je dois partir de chez moi. Je pars de chez moi, alors j'écris chez moi jusque vers 8h, ou jusque vers 7h, et là je mange, je prends ma douche, enfin, je me prépare. Et c'est un acte qui est important pour moi, parce que c'est rejoindre quand même le monde des vivants. C'est-à-dire que je pars au moment où les enfants partent aussi, je croise des gens dans la rue, les gens vont au bureau, à l'école, et je vais dans un bureau qui est un endroit à part, et j'ai toujours fait ça, depuis que j'ai commencé à écrire très sérieusement, c'est-à-dire où j'ai fait presque que ça vers l'âge de 19 ou 20 ans, j'avais déjà un bureau chez ma grand-mère, parce que j'avais besoin d'une pièce où je m'enferme, et où je pouvais vraiment, ça donnait quelque chose de plus sérieux, je crois, où je pouvais me concentrer vraiment.
Est-ce que vous avez tous un cadre de travail comme ça, ou est-ce que c'est plus fantaisie ? Je sais que vous avez des carnets, vous écrivez un peu, maintenant vous êtes plus organisé, mais...
Les banquettes des taxis... Ouais.
Moi, c'est assez brouillon, c'est-à-dire que j'essaye d'être disciplinée, j'essaye d'avoir des horaires, mais c'est assez difficile, j'ai deux enfants qui sont petits, j'ai plein de choses autour qui font que j'ai du mal à trouver du temps. Donc moi, le temps, je le vole. Chaque moment où j'arrive à écrire est un moment volé, est un moment précieux, un moment où voilà, j'ai réussi à envoyer tout le monde au parc, à préparer un truc à manger pour tout le monde avant. Et là, c'est un petit moment pour moi pour écrire. Et puis j'essaye de construire des frontières, c'est-à-dire d'expliquer aussi à mes enfants, à ma famille, qu'il y a une frontière à ne pas dépasser, que quand ma porte est fermée, ben, il ne faut pas taper pour n'importe quoi.
Mais c'est ce que Virginia Woolf appelait la chambre à soi.
C'est ça, c'est la chambre à soi.
Je trouve que pour les femmes, c'est plus compliqué aussi.
C'est très difficile.
Moi, j'ai de la chance, maintenant, mes enfants sont grands, ils sont partis. Mais c'est vrai que quand ils étaient plus petits, c'était très compliqué d'écrire avec des enfants. Il fallait toujours tricher. Et puis, ils ne comprenaient pas cette histoire de « maman ferme sa porte et on ne peut pas être dérangé ». Donc maintenant, ça s'est terminé, ils ne sont plus là. Mais moi, j'aime bien cette solitude, moi, au contraire. Je la recherche. Je trouve que ce qui est angoissant pour moi, c'est de faire la promo des livres, en fait. Je trouve que c'est... Je trouve ça très angoissant d'aller parler de son bouquin, d'essayer de dire des choses intelligentes, d'être à la hauteur Je trouve que pour moi, l'angoisse, c'est rentrer dans la lumière, en fait. C'est pas l'écriture.
C'est pas l'écriture.
Non.
Je comprends tellement bien ton problème que je l'ai réglé d'une façon radicale, c'est que je n'arrête absolument jamais d'écrire. C'est-à-dire que même quand je fais la promo, je continue d'écrire, ce qui fait que je fais ma promo, mais je me dis que ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est les heures de la journée.
Je ne sais pas comment tu fais, j'aimerais savoir comment tu fais, parce que peut-être que tu fais des promos un peu moins longues, je ne sais pas.
Tu n'as pas eu... Oh, je fais des promos, je suis en promo, mais toute l'année.
Non, mais là où tu es impressionnant, c'est ton endurance physique, parce que c'est physique.
Oui, moi, tu dois avoir un secret. Alors, est-ce que c'est le champagne ? Je ne sais pas.
Le secret, c'est que je suis une grande barbare venue du Nord. Vous savez, omnium gallorum fortissimi sunt belgae. Il faut être belge, c'est la solution.
Comment construisez-vous un roman, Aurélien Bélanger ? C'est d'abord l'histoire, d'abord des personnages ?
Une idée excellente que je trouve tellement bonne que ça va me prendre 2 ans pour la dévider complètement. et je sais à peu près quand l'idée est bonne. Une simple idée. Ouais. Et idéalement, il y a toute cette histoire. Flaubert qui disait que Madame Bovary était une certaine teinte de brun. Quand on a à peu près l'idée, le problème c'est que c'est une idée qui prend 500 pages pour être explicitée et on peut jamais la nommer. Mmh. Donc c'est impossible. On peut pas la condenser. Donc c'est un truc très exponentiel. Et puis l'exponentiel, on essaie de le ramasser à peu près pour lui donner la forme d'un roman. Mais j'ai eu à peu près aucun doute. J'en suis à mon quatrième roman. Je termine mon quatrième d'avoir trouvé une idée excellente et qui était vraiment la bonne idée qui portait vraiment le roman. C'est-à-dire que à chaque fois que je pensais avoir fini, il y avait ces 8 chapitres qui jaillissaient comme ça spontanément parce que j'avais encore un truc à dire.
Mais c'est quoi une idée ? C'est concret, il y a des personnages ou c'est... Dites-moi ce que c'est une idée.
On ne sait pas, c'est une idée, je crois beaucoup à ça, c'est que le roman est un outil de connaissance, mais un outil de connaissance spécifique. Il existe une connaissance romanesque comme il existe une connaissance scientifique. De la même façon, il existe des données qui sont romanesques comme il y a des données qui sont poétiques. Des fois, je sens que quelque chose est romanesque. Je ne sais pas exactement à quoi ça tient, mais ça veut dire que j'ai plein de choses à dire et qu'il existe une sorte de prose qui découle du sujet. Mon premier roman, par exemple, c'était mon vrai premier roman, je connaissais pas du tout mes capacités techniques en tant que romancier. Je m'étais dit, un petit peu comme une blague, je raconterais bien l'histoire du Minitel français. On y revient justement. et l'histoire de la révolution informatique en France. Et l'idée s'est avérée excellente, dans la mesure où j'avais toujours quelque chose à rajouter. C'était passionnant à écrire, et je me suis posé la question stylistique, en fait, jamais. En me relisant à la fin, le style, à aucun moment, je me suis toujours demandé comment j'allais faire, et à aucun moment je me suis dit faudrait faire comme ça. Parce qu'il y a aussi cette chose quand on écrit, c'est qu'on est vraiment confronté à notre incapacité foncière à faire autrement que comment on fait. On développe vraiment notre idiotie. Il y a personne. Moi j'avais un grand fantasme de comment un écrivain, c'était comme quelqu'un qui joue au jeu La Roue de la Fortune, qui est face à un grand écran lumineux de lettres, qui choisit comme ça telle conjonctive, telle relative, etc. En fait, on est vraiment la tête sous l'eau et on fait absolument comme on peut. Ouais.
Philippe Génada, c'est les faits divers qui vous inspirent ?
Ben maintenant, oui. Ouais. Enfin, moi, je lis beaucoup de fiction, mais ouais. J'en écris pas. Soit je sais pas le faire, soit j'ai pas envie. Enfin, Et donc maintenant, oui, c'est un peu la même chose. Moi, je comprends parce qu'on me dit, oui, ben, c'est facile. T'as des sujets qui sont tout faits, des histoires qui existent. Le travail d'écrivain, de romancier, d'auteur, ce qu'on veut, c'est aussi de raconter. C'est comme si on disait, Cézanne, il s'est pas foulé, il y avait la Sainte Victoire, il s'est contenté de la reproduire, quoi. Moi, je pense que si j'étais peintre, je peindrais plutôt la tête de quelqu'un qui existe, je vais prendre par exemple Amélie, plutôt que d'inventer une tête, quoi. Donc voilà, donc moi, j'ai des sujets comme ça, et après, pour les choisir, parce qu'on en entend, surtout maintenant que j'ai écrit ça depuis plusieurs années, il n'y a pas un jour où on me dit pas, au bistrot d'en bas, je vais te raconter l'histoire de ma tante.
Vous allez tous les soirs.
Je te raconte l'histoire de ma tante, c'est de mon cours assuré. Quoi. Et tout le monde, j'ai l'histoire de tous les côtés.
La serpe, ça, c'est parti d'un type qui est venu te voir en disant il faut que tu racontes l'histoire de mon grand-père.
En 10 ans, je lui ai dit non, j'en ai marre de raconter l'histoire des grands-pères. Machin. Et puis finalement, j'ai trouvé la porte d'entrée là-dedans. Mais... Et en fait, moi, je me rends compte par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, ce que disait Aurélien. Moi, pour moi, le bon sujet, moi, j'aime raconter des histoires vraies. Et je les raconte, en fait. Quand j'ai une idée qui me plaît, qui m'excite, je me dis, ah, ça a l'air bien. Et au bistrot, je raconte aux gens, est-ce que tu connais l'histoire, machin. Et quand je vois que les gens sont passionnés, je me dis, une bonne partie du travail est fait, maintenant, il faut bien l'éclairer.
Vous parlez des histoires plutôt que des personnages.
Moi, c'est les personnages. Vous, moi, c'est je les parle personnages. Vraiment des personnages. En général, c'est un personnage qui surgit, dont j'imagine le physique, dont j'imagine le mode de vie.
Et j'essaie... aucune référence à un personnage existant ?
Non, pas un personnage existant. Et j'essaie d'imaginer tout ce qu'il y a derrière, tout ce que cette personne ne dit pas aux gens qu'elle connaît, tout ce que les gens ne savent pas sur cette personne. Donc, ce qui me fascine, en général, c'est ça. C'est le secret de l'intime, le secret, finalement, des âmes. Je pars de ça. Mais après, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Aurélien, c'est que finalement, moi, je me suis rendu compte de quelque chose qui est à la fois dur et finalement génial dans notre métier, c'est que c'est l'écriture qui écrit. C'est-à-dire que même si au départ on a une toute petite idée, le simple fait de se mettre à sa table de travail et de commencer à écrire fait naître des choses, fait accoucher des choses dont on n'imaginait pas du tout qu'on était capable de les écrire. Donc c'est l'écriture elle-même qui crée l'écriture. Et ça, cette dynamique-là, elle est à la fois vertigineuse et finalement rassurante parce qu'on se dit qu'en partant d'une toute petite chose, pourront advenir des choses extraordinaires.
Et le personnage de départ, comment il arrive-t-il dans votre tête ?
Ça peut être quelqu'un que je rencontre dans la rue, ça peut être une pensée qui me traverse moi et je me dis tiens, j'imagine très bien telle personne il me pensait ça. Ça peut être plein de choses différentes, des gens voilà que j'ai croisés tout à fait par hasard, une conversation que j'ai entendue, ça peut être une simple phrase.
Joël Dicker, vos héros arrivent comment ?
Mais pour moi, le premier élément, c'est l'envie. Avant les idées, avant les personnages, avant que ça, je me dis est-ce que j'ai envie d'écrire quelque chose ? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça ? Et parce qu'on le disait, c'est épuisant, c'est fatigant. Et j'aimerais ne pas avoir envie. J'aimerais faire autre chose. C'est pour ça que je te demandais aussi, est-ce que tu as peur de la création ? Est-ce que tu as peur de quoi ? Est-ce qu'on a peur de ce métier qui n'existe pas vraiment ? Parce qu'on n'a pas un diplôme qui nous dit tu es écrivain. Et moi, la première question que je me pose, c'est l'envie. Et c'était une question que je me suis jamais posée quand on refusait tous les manuscrits que je soumettais, parce que
ça on les refusait beaucoup. Au début,
ouais. Et à ce moment-là, je travaillais, j'avais un boulot, j'avais des études, et je faisais que écrire. Ça veut dire que je m'arrangeais pour avoir tellement de temps libre à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour écrire, que la question de l'envie, elle était là, parce que c'était un sacrifice. Et puis tout d'un coup, quand le succès arrive, et que je me dis, mais c'est ça que je veux faire, je veux être écrivain, et ça marche, et là, la question de l'envie, elle est différente, parce qu'on n'a plus que ça à faire. Moi, j'avais plus que ça à faire. Et la question de l'envie, elle vient souvent. Et quand j'ai envie d'écrire parce que j'ai une idée ou que j'ai un personnage, et je me dis « Ah, ça, c'est pas mal », je me dis « Non, tu n'écriras pas. Tu ne veux pas écrire, tu n'as plus envie d'écrire, tu n'es plus un écrivain. Alors je vais faire autre chose. Je vais me promener, je vais voir un film, je lis un bouquin, je vais voir de la peinture, je vais courir. Je fais autre chose et je m'empêche. Et je m'empêche et je m'empêche jusqu'à ce que le bouillonnement soit de plus en plus fort. Et ça, pour moi, c'est un élément qui est très important parce que je sais qu'au moment où je cède à cette envie-là, ces 3 ans de désastre de ma propre vie, où ma vie intérieure, ma vie solitaire, ma vie d'écrivain sera 100 fois plus forte que la réalité.
Est-ce que c'est douloureux d'écrire, Tatiana Deronet ?
Pas pour moi. Je rejoins tout ce que vous avez dit là. J'ai l'impression que écrire un roman, c'est partir dans une espèce de lieu psychique qui existe dans un endroit que toi seul connais. Et toi seul, tu as la clé de cet endroit. Et tu vas dans cet endroit. Tu es absolument seul. Mais c'est toi qui construis cet endroit. Et pour le moment, quand tu l'écris, tu ne sais pas qui va te lire et tu t'en fiches au fond. Tu ne sais pas pour qui tu écris. Mais tu écris parce que tu as un truc à dire, tu écris parce que tu as une histoire à dire. Et ce qui est très étrange, c'est que parfois, quand on va dans cet endroit, alors que le roman dont on a eu l'idée au début, ou d'un personnage, ou d'une situation, prend une autre tournure, et on se rend compte parfois qu'on n'est pas du tout en train d'écrire le livre qu'on a imaginé au début.
Il y a quelque chose d'extatique. Un peu.
Et donc, du coup, tu te dis, mais C'est quoi ce truc ? Mais tu y vas quand même. Et en fait, c'est à la fois pervers, bizarre, je dirais pas douloureux, je dirais que c'est un moment d'intimité, c'est un moment d'étrangeté. Pour moi, la douleur, si douleur il y a, c'est ça justement, c'est comment de cette espèce de masse, de bribes d'histoire que tu construis, c'est comme un millefeuille, en fait, un roman. Tu pars d'une idée, d'un personnage, ensuite ça se construit, ça devient de plus en plus complexe. Comment est-ce que toi, tu vas tirer ton chemin
là-dedans pour que ton personnage il ait, et ton lecteur il ait envie de te suivre. En même temps, j'ai envie de dire que est-ce que le lecteur a de l'importance finalement? Si on pense trop au lecteur, est-ce qu'on risque de... Moi, je pense qu'il ne faut pas penser au lecteur.
Ouais, moi, en général, je trouve qu'il faut penser à rien.
Enfin, je pense qu'il ne faut pas penser au lecteur.
Tu vois, quand je me retrouve à 16h, parfois, c'est à une demi-heure d'aller chercher mon fils à l'école, que je suis encore en pyjama, comme ça, que j'ai mangé à côté de mon bureau, que j'ai fumé un demi-paquet de clopes, et je suis devant mon... Et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et je relis parfois le texte le soir, et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé?
Le temps a filé,
et puis je relis des phrases, et je me dis, mais d'où est venue cette idée? Comment j'ai imaginé cette situation qui est cette personne dont je parle, et c'est très très étrange. Ce lieu, il reste étrange pour
secret.
Moi, et d'une certaine façon, j'ai pas envie de résoudre le mystère, parce que c'est ça qui fait tout le sel.
C'est une transe, et on n'y peut rien. Le problème du lecteur est un problème annexe. Je publie à peine le quart de ce que j'écris, donc je ne dis pas que ce n'est pas important.
Tu as écrit quoi, 100 romans ?
Je suis en train d'écrire le 93e, ouais. Pour n'en avoir publié que 26 et demi. Donc,
26 et demi, j'adore.
C'est parce qu'il n'est pas encore sorti, le 27e. donc, bien sûr, c'est très important d'être lu, mais c'est quand même moins important que cette transe-là. Et au moment de cette transe, il est impossible de penser au lecteur. Même si on le veut, ce n'est pas possible. C'est comme quand on fait l'amour, est-ce qu'on est capable de penser aux conséquences? C'est impossible.
Vous avez parlé des idées, des personnages, mais moi, enfin, j'ai l'impression que c'est surtout les phrases. Mon problème, c'est, j'ai des obsessions, il y a des sujets qui m'intéressent, j'ai une curiosité, une envie peut-être, mais... Au fond, c'est quelle est la prochaine phrase? Quelle est la phrase d'après? Est-ce que ça tient debout? Est-ce que je vais écrire quelque chose d'original? C'est toutes ces angoisses-là, en fait, qui... Moi, c'est phrase après phrase. Et Jules Renard dit quelque chose que je vais mal citer, mais qui est du genre « l'idée n'est rien sans la phrase « je vais me coucher ». Et ça, j'y pense tout le temps, parce qu'au fond, il faut en parler quand même, c'est que le travail en question, le plus fastidieux, c'est quand même de sujet, verbe, complément, quel adjectif est-ce que je mets un point virgule? Est-ce que je vais à la ligne?
C'est aussi le plus intéressant, le plus passionnant aussi.
J'ai une hypothèse sur cette question de quel serait le lieu de l'écriture, l'endroit le plus intime, qu'est-ce qui se passerait dans cette transe. Je pense que, très modestement, on rencontre le logos universel, en fait. C'est-à-dire, au moment où on est le plus intime, on tape directement dans la prose du monde, c'est-à-dire on est sur un objet qui est sociologiquement très distribué, on n'est plus dans notre roman, on est dans quelque chose qui circule de façon assez fluide d'un cerveau à l'autre, si tant est qu'on est à peu près lisible, voire on va encore un cran au-dessus. Il y a eu longtemps cette croyance que le poète avait un accès privilégié à la réalité. Moi, j'ai tendance à penser que si on est bon en écriture, notre écriture est un acte physique du monde et on touche quand même quelque chose de la réalité, et que si j'y connais rien et si je décide d'être à peu près correct sur un sujet de physique auquel je ne connais rien, je pense que je ne ferai pas d'énormes erreurs, parce qu'il y a quelque chose de... C'est très kitsch aujourd'hui, mais ces espèces de grandes phrases hugoliennes, la bouche d'ombre, on touche l'infini, c'est ça qui parle, etc. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et moi, ce qui m'amuse, c'est de me dire qu'on le trouve dans le roman.
Je veux dire une chose, c'est que toi, tu écris des livres très documentés, c'est-à-dire que tu travailles énormément.
En fait,
la documentation.
De moins en moins, ouais. De moins en moins, je prends de plus en plus de risques d'improvisation maintenant.
Et puis moi, surtout, je me disais, là, quand on parle de trans, ça, bon, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, je me disais, il n'y a pas longtemps, là, c'est le seul moment dans sa vie où on est absolument concentré. C'est-à-dire, quand on écrit, il n'y a pas d'autre moment, quand on parle à quelqu'un, ou même quand on marche dans la rue, on est un peu... Là, on est complètement concentré, donc c'est normal qu'on entre dans un état un peu particulier. Et surtout... j'en suis sûr, c'est la seule partie de ma vie, et de la vôtre aussi, je pense, où on est entièrement libre. C'est-à-dire que vraiment, je suis pas libre avec ma femme, avec ma mère.
C'est ce que je dis, cette liberté.
Là, c'est une émission libre, sympathique. Si je veux me déshabiller et m'asseoir tout nu au milieu, je peux pas, quoi.
Je peux.
alors que là, dans l'écriture, on est, entièrement libre. Même de faire n'importe quoi, de faire mal, de faire bien, de faire 50 pages ou 3 pages pour. Et c'est une liberté absolue qui n'existe pas ailleurs dans un.
Mais c'est pour ça que c'est pas une souffrance, ce moment-là.
C'est pour ça qu'il y a une jouissance aussi. Ce que Orwell dit, c'est la liberté de dire aux autres ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Et je crois que c'est tout à fait vrai. C'est la liberté vraiment de.
Des jours avec et des jours sans.
Ouais, bien sûr.
Il y a des jours où je suis absolument effaré.
Il y a beaucoup de jours sans, d'ailleurs.
Mais
une gestion de l'effort, en fait. Surtout quand on écrit un roman, c'est qu'on sait qu'on va devoir traverser 3, 6, 1 an où on va être nul et il faudra y retourner comme
le lendemain. Et puis il y a le moment où on se relit le lendemain à voix haute, qui est très cruel.
Moi, je me relis jamais à avant d'avoir fini, c'est trop risqué.
Ouais. Oui, tu corriges. Est-ce que vous écrivez sur papier ou sur...
Les deux.
Les deux, Et la page blanche, ça existe toujours.
100% analogique. Ouais. Je ne possède pas d'ordinateur, je ne sais pas comment ça fonctionne. J'écris à la main dans des cahiers d'écolier.
Pas de portable non plus.
J'ai pas de portable, j'ai pas d'ordinateur, 100% analogique. Donc il ne m'est pas arrivé la mésaventure de Leïla.
Ah là là, je suis très très mal.
Tu peux perdre.
Mais comment vous avez perdu un texte?
L'ordinateur qui a planté.
Ah ouais.
Ouais. Donc voilà, je viens de vivre une grande douleur de l'écrivain ou de l'écrivaine.
Est-ce que vous avez, quand vous écrivez un livre, vous dites ça va être un gros livre, vous faites des livres vous, qui sont 500 pages, non?
Un peu plus, oui.
C'est vrai, 600. Ouais.
J'aimerais bien faire plus court. Et je pense que le défaut, c'est que j'ai pas de plan. C'est que je travaille sans plan.
Ça, je sais pas comment tu fais.
Et
pas de pour un livre aussi gros,
avec
du suspense, je ne sais pas comment tu fais sans plan. Je sais pas. Tu dois quand même savoir où tu vas.
Non, parce que pour moi, l'excitation, le plaisir et l'envie, elle vient de pas savoir.
Oui, en fait, quand tu dois quand même savoir à peu près ce qui se passe à la fin.
Non, pas du tout. Non, c'est vraiment le vrai plaisir, c'est de me dire qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, parce que je pense pas à mes lecteurs ou à mon lecteur, mais je suis mon lecteur puisque je sais pas ce qui se passe. Et donc la notion de plaisir.
Mais il y a quand même
de
des
plaisir,
mystères à résoudre dans tes livres.
Bah, je les découvre. Je les découvre et je me dis, bon, bah.
Est-ce que ça t'arrive de te dire, je me suis trompée?
Oui, je coupe beaucoup. Je coupe à peu près en tout cas.
Et de devoir revenir en arrière parfois pour.
Oui. Ouais. Et ça a été très difficile au début parce que je me disais, ah mon Dieu, je dois enlever 100, 200, 300, 400 pages.
Mmh. Ah oui.
Et en même temps, tout d'un coup, le déclic m'est venu de me dire, mais en fait, plus j'enlève et plus je comprends ce que je fais. Moi qui n'ai pas de plan. Plus je retourne en arrière, plus je me rends compte du chemin que j'ai fait. Et là, alors, quelque chose devient un peu plus clair.
Mais vous commencez un roman avec quoi en tête, alors, s'il n'y a pas de plan?
Après l'envie, quand enfin je m'installe, c'est une idée. Qui peut être n'importe quelle idée, qui va amener une idée. C'est vraiment la course aux idées, parce qu'une idée va amener une idée, va amener une idée. Et finalement, donc, je veux dire, c'est ça. Et là, on est déjà à 60 pages, on repart à zéro. Parce que je dis, ah, en fait, c'était ça. Et il y a ce jeu de ne pas savoir, pour moi, c'est très important. Et une idée va amener un personnage qui va évoluer. Un personnage homme va devenir femme, ou inversement, ou va venir, ou va disparaître. Et pour moi, c'est un élément qui est le vrai élément clé de ma façon de travailler, c'est de ne pas savoir.
Est-ce que c'est un cas d'espèce ou vous travaillez tous avec des plans?
Il y a une théorie mathématique qui s'appelle l'intuitionnisme qui dit que les objets mathématiques sont créés à mesure qu'on fait des mathématiques, et ça ne dit pas que chacun va trouver des objets mathématiques différents. Donc en fait, dans une trame de pure improvisation, ça ne veut pas dire qu'on s'éloigne forcément de la réalité. Ça me semble assez normal que le plan soit généré quasiment de façon automatique par un travail d'improvisation. Ouais.
Il y a une voie moyenne. Quand je commence un livre, je sais où je vais arriver, mais je ne sais pas comment je vais faire.
Exactement.
Pour y arriver. C'est comme ça. Donc, je n'écris aucun plan. J'ai l'intuition très exacte de la destination, mais aussi de la sensation que je veux me procurer. Mmh. Et c'est en suivant cette sensation que j'arrive à destination.
Comment vous faites pour écrire autant?
J'arrête pas. Ça, c'est vraiment le secret que j'ai trouvé. Le secret de l'inspiration, c'est de ne jamais s'arrêter. Si on ne s'arrête jamais, il n'y a aucune raison que ça s'arrête.
Le truc amusant, c'est de faire un plan et puis d'écrire complètement autre chose. Moi, je trouve que c'est assez agréable.
Oui, c'est pas mal.
C'est comme ça, on désobéit à la structure qu'on avait préétablie et on a l'impression d'être libre. Tiens, je voulais écrire ce livre-là, j'en écris un autre. C'est à chaque fois...
Vous le faisiez aussi dans les émissions de télé. Hein.
Voilà.
Philippe Zinada, vous, c'est très structuré ou...
C'est très structuré, ça dépend. En fait, moi, j'ai écrit une dizaine de livres. Les premiers, c'était plus ou moins sur ma vie. Donc, j'avais des plans, mais dans la tête. Hein. J'avais, comme disait Amélie, moi, j'avais le point de départ, l'arrivée, deux, trois étapes, un peu au milieu. Et puis, j'essayais d'aller. Là, je suis obligé d'avoir des plans plus sérieux, enfin, plus solides, plus carrés. Mais desquels je peux sortir. Hein. C'est-à-dire que, avant de commencer le livre, je suis obligé, comme ce sont des histoires vraies, avec des faits incontournables, j'ai un bon fichier de base. Et après, notamment, moi, c'est plutôt, par exemple, sur les proportions. C'est-à-dire que mon dernier livre, c'est un crime, et c'est aussi la vie d'un type. Je pensais faire 90% sur le crime, l'enquête, machin, et un tout petit peu sur la vie. En fait, ça s'est équilibré. Il y a une... Oui.
Donc, attends, et tu oublies de dire que t'es quand même le champion des digressions. C'est-à-dire que lui, il commence à vous raconter une histoire, puis il vous explique qu'il va au bistrot, qu'il rencontre un pote, que sa femme l'engueule, etc. Et donc, tout, il raconte son enquête. Et je trouve que ça, c'est intéressant aussi de raconter une histoire et puis ensuite d'être totalement libre, de digresser, de partir dans une autre direction.
Oui. Je n'ai pas de liberté sur les histoires dont je parle qui sont passées il y a 70 ans, mais évidemment, dans mon plan, il n'y a pas, là, je vais faire une digression.
Il y a votre fils.
Il y a mon fils, mais qui est en temps réel, qui apparaît en temps réel. Je vais aller au Prix de Flore d'Aurélien. Il m'est arrivé des terribles, je ne pouvais pas le prévoir.
Et quand, c'est-à-dire quand vous avez eu le prix de Flore
Alors, moi, j'ai eu il y a longtemps, mais lui, il l'a eu. Je suis allé célébrer. C'était les 20 ans du mien.
Je suis passé à travers la haie, j'avais trop bu et je suis tombé sur le trottoir. Ouais.
C'est assez rare qu'il y ait des gens qui aient trop bu au prix de Flore.
Je ne vois pas de quoi vous parlez.
Et vous, quand vous l'avez eu, vous avez découvert le Flore.
Alors, il y a 20 ans. Je ne connaissais rien du tout. Ouais. Je ne savais pas qui était Frédéric Belbédé. Je n'avais jamais mis un pied au.
Jamais sorti de ta tanière.
Non,
effectivement.
Alors, les prix, justement, le prix Goncourt, ça change quoi?
Beaucoup de choses. Ouais. Ouais, ça change beaucoup de choses. Bah, ça change beaucoup mon emploi du temps. Déjà, je n'avais pas beaucoup de temps pour écrire, où je trouvais que j'en avais pas assez. Là, j'en ai encore moins. Donc, même si c'est génial, que ça apporte beaucoup de choses, au bout d'un moment, il faut commencer à dire non. Il faut commencer à essayer de retrouver un espace à soi pour s'isoler. Puis, il faut éviter de devenir une sorte de personnage, quoi, de devenir un personnage dans sa propre vie ou dans la vie des autres. Il faut essayer d'éviter de devenir Leïla Slimani. J'essaye à tout prix d'éviter de devenir cette femme que je ne connais pas et ne veux pas connaître. Voilà, donc, c'est ça le plus important, c'est de conserver une certaine, liberté. Ouais.
Comment fait-on pour avoir cette distance?
Je crois qu'il faut d'abord être bien entouré. Je pense qu'ensuite, il faut avoir un certain goût aussi pour la solitude. Et moi, j'ai un grand goût pour la solitude. C'est-à-dire que j'ai ressenti quand même un certain épuisement au bout d'un moment. Puis moi, j'ai eu une chance, c'est que j'ai eu le prix Goncourt alors que j'étais enceinte. Mmh. Et donc, automatiquement, 6 mois après, j'ai eu ma fille et je me suis arrêtée pendant un certain temps. Et j'étais préoccupée par des choses très concrètes et voilà, par des biberons, les couches et tout ça. Et ça m'a remis un petit peu les pieds sur terre.
Et l'attente du roman qui suit est différente.
Ben oui, justement, parce que j'ai peur maintenant qu'on attende le livre de Leïla Slimani, et que moi, je ne veux pas que ce soit elle qui l'écrive. Donc, je veux être absolument sûre que ce soit dans cet espace-là, dans cet espace de transe, dans mon espace à moi, que je vais écrire ce livre qui m'appartient totalement. Donc, j'ai besoin de prendre mes distances avec elle.
Aurélien, le prix de Flore, ça a changé, fait bouger à part de traverser la haie.
En fait, non, parce que j'y suis pas allé prendre beaucoup de verre. J'y suis allé récemment, j'ai volé une tasse à café, donc je bois dans une tasse à café du café de Flore. Non, mais les prix sont intéressants sur un point, c'est que ça nous rappelle qu'on évolue dans un champ sociologique très dense. Il existe énormément d'institutions et c'est jamais mal de les rencontrer à un moment, parce qu'on apprend aussi à se positionner, à sortir peut-être d'une posture romantique et puis à apprendre qu'on est malgré tout un petit objet social comme les autres. Et que c'est important, ça permet d'établir des bons réglages. Après, le problème des prix, c'est quand on les a pas, on trouve que c'est débile, et quand on les a, on trouve que c'est très légitime.
Ouais. Ça vous est arrivé aussi.
Ça tient chaud, ça rassure. Comme je le disais, moi, je manquais de confiance, et je passais mon temps à m'excuser d'écrire. Et quand un certain nombre de gens que vous admirez vous disent « Ben non, Freddy, ça va, arrête, tu fais peut-être partie du club », c'est chaleureux, c'est rassurant, ça donne un peu plus confiance en soi, voilà, c'est pas mal, c'est pas mal.
Qui est votre premier lecteur? Est-ce que c'est vous, votre premier lecteur? Évidemment, c'est une évidence, mais après, est-ce que vous avez un lecteur test qui compte pour vous?
C'est mon éditeur.
Ouais. Mmh. Qui vous fait confiance depuis le début?
Non, moi, c'est pas mon éditeur du tout, moi.
Alors, au début, ouais. je crois que c'est Philippe Solers qui a refusé votre premier roman.
Oui, c'est vrai. Il a très bien fait, parce que s'il ne me l'avait pas refusé, je ne serais pas chez Albin Michel. Et je pense qu'Albin Michel est pour beaucoup dans Ma belle vie.
Ouais.
Donc, merci à Philippe Solers.
Il a refusé parce qu'il croyait que c'était un pseudonyme, c'est ça?
Voilà.
Ah, c'est drôle.
Ouais. Il arrive des histoires drôles. Hein.
Oui,
parce que le premier parle d'un vieil écrivain ronchon, et c'était difficile d'imaginer que cette créature frêle ait pu imaginer ce personnage.
Et puis, il avait cru aussi que j'écrivais sur lui, ce qui n'était pas du tout vrai.
Ah oui. Joël Dicker, vous, c'est la confiance d'un éditeur qui a vous
avez
le
Bernard
pied
de Fallois, Bernard de Fallois, à qui je dois vraiment tout. Qui a été celui qui a cru d'abord en moi, parce qu'il a accepté de faire paraître mon premier roman, qui n'était pas le premier, mais qui était le premier qu'il a fait paraître. Et puis ensuite, qui a vraiment cru en moi à un moment donné où mon premier roman, j'ai mis 3 ans et demi à peu près pour finalement le rencontrer et que ce roman paraisse. Et j'avais écrit un autre livre qui était déjà prêt et fini. Et Bernard de Fallois apprend que j'ai un livre fini. Et à ce moment-là, le premier roman vient de paraître. On en a vendu 100, 200 peut-être. Et il me dit, j'aimerais bien lire votre nouveau livre. Il le lit, il dit, ah, je trouve que c'est très bien. Je lui dis, non, je ne veux pas le faire maintenant. On le fera dans un an ou deux peut-être, mais je venais de voir ce que ça voulait dire que d'être un écrivain qui avait un livre qui paraissait. Je venais de me confronter à la réalité d'un premier roman qui paraît et que ça veut dire que personne ne vous connaît, moi qui avais espéré qu'on me lise, etc. Et je lui dis non. Et il insiste. Pendant des mois, il insiste. Il dit « Je crois que votre livre sera très bon ». Et il me dit « Je crois que votre livre aura un succès immense ». Et je finis par lui dire « Mais comment vous pouvez être sûr que le livre aura un succès immense ? On vient de faire paraître un livre, on en a vendu 100 ». Et il me dit « Le succès, c'est pas, je peux pas vous dire s'il y aura un succès commercial ou critique ou quoi, mais le succès, c'est le plaisir qu'on a à mener un projet. Et on va avoir du plaisir à mener ce projet ensemble ». Et je me suis dit, à ce moment-là, c'était au mois de juin 2012, et il m'a dit « J'aimerais faire parler de votre livre au mois de septembre, dans 2 mois, donc il faut me dire d'ici à demain si c'est oui ou non ». Et je me suis dit « C'est vrai, je pense que je vais bien me marier avec lui ». Et j'ai accepté, et c'est le livre est paru au mois de septembre 2012.
Et ce livre, c'était ?«
La vérité sur l'affaire Harry Keller ».
Voilà, et c'est vendu à
Aujourd'hui, je pense 5 ou 6 millions d'exemplaires.
Oui. Il y a un silence.
Mais ça c'est Bernard.
Votre premier lecteur, c'est vous aussi ?
Non, ma compagne, ouais. C'est moi. Enfin, ouais. Est-ce que je suis mon premier lecteur ?
Ouais, bah, qui est votre premier lecteur ? Ouais.
Non, bah, moi d'abord, et puis après ma compagne qui me dit vraiment les fois où j'ai un peu trop déconné, et il y en a toujours. Et puis après, c'est mon éditeur, mais mon éditeur, sa fonction symbolique, c'est d'être détesté par moi. Mmh.
Qui est votre éditeur ? Je parle de l'être humain.
Michel Brodeau.
D'accord.
Parce que c'est une fonction, enfin, pour moi, c'est une fonction ingrate, parce que j'aime pas l'idée qu'on me dise des choses, je suis pas du tout réceptif à ce qu'on me dit.
Vous n'avez pas la critique ?
C'est une excellente question. J'aime beaucoup l'autocritique. Je ne sais pas.
Attention à la réponse.
Non, j'aime beaucoup l'autocritique. Non, mais c'est compliqué parce qu'en fait, être écrivain, c'est vraiment. Faut croire très fortement qu'on est génial et très fortement qu'on est minable. Et on n'est pas bon si on ne tient pas les deux pôles, en fait.
C'est extrêmement vrai.
Donc il faut.
Une grande chose est dite, là. On est tout le temps. Il faut s'efforcer de rester équidistant entre les deux pôles. Je suis nul ou je suis génial. Si on se rapproche de l'un des deux, c'est foutu.
Et l'éditeur occupe, en fait, la position du balancier. Ouais. Parce que lui, il est. Enfin, en tant que lecteur, il ne dit jamais qu'on est génial, il ne dit jamais qu'on est nul. Ouais. Il dit, c'est éditable, quoi.
Et puis surtout, c'est un type qui attend. Il y a quelqu'un qui attend quelque part, avec peut-être un délai, avec une date de remise. Et tout ça est très important. Sinon, encore une fois, on pourrait ne rien faire, se tourner les
Philippe Génada, comment ça fonctionne ?
Oui, moi, c'est comme Aurélien, moi, c'est mon épouse, ma femme, mon premier lecteur. Mon éditeur, c'est le deuxième.
Anne-Catherine,
exactement. Pour une raison toute simple, c'est ce qu'on disait tout à l'heure entre le livre qu'on a en soi et le livre qui apparaît. Moi, j'ai la conviction qu'un livre réussi, dans l'absolu, c'est un livre qui ressemble à la personne qui l'a écrit. C'est-à-dire où il y a moins de déperdition entre l'intérieur de l'auteur et ce qu'il y a sur le papier et l'encre. La personne qui, de loin, me connaît le mieux au monde, c'est ma femme, de loin. Donc la seule personne qui peut me dire « Est-ce que ton livre est réussi ?», c'est ma femme. Si elle lit et qu'elle trouve que ça ne me ressemble pas, je dis ça, évidemment, très modestement, hein, c'est que c'est raté pour moi. C'est que j'ai pas mis ce que je voulais mettre dans le livre. Donc, si mon éditeur me dit « Ce chapitre est pas terrible », je réfléchis, je regarde. Si ma femme me dit « Ce paragraphe est nul », je raye, mais tout de suite, sans relire, ni rien, toc.
Léla Simani,
vous dites... Non, c'est exactement l'inverse.
C'est l'inverse.
C'est pas l'inverse. C'est-à-dire que je ne pourrais jamais le faire lire en premier à quelqu'un qui me connaît ou qui me connaît intimement. Parce que pour moi, justement, c'est dans ce décalage que se situe la littérature, que se situe mon plaisir à écrire. Donc j'aime bien, justement, que ce soit mon éditeur. Alors moi, j'ai aucun rapport possessif avec mon texte. Une fois qu'il est terminé, s'il me dit « enlève ça, mets ça ici », je suis très très docile, je dis « oui, d'accord ». Je mets, j'enlève, c'est drôle, je suis pas du tout... c'est pas que je m'en fiche, mais à partir du moment où je l'ai terminé, j'ai le sentiment qu'il ne m'appartient plus vraiment. De la même manière que si un lecteur a une interprétation totalement à l'inverse de ce que j'avais voulu écrire, ça ne me dérange pas. Je n'ai pas du tout l'impression de posséder mon livre.
Tatiana Dornet,
moi, j'ai des lecteurs cobayes, en fait, qui ne sont jamais les mêmes. Et après, j'écoute toujours ce qu'on me dit. Je trouve ça intéressant. J'en tiens pas toujours compte, en fait. Mais je reviens à l'histoire de l'homme qui partage ma vie, parce que ça fait quand même assez longtemps maintenant qu'il est dans ma vie. Donc il a lu beaucoup de choses. D'ailleurs, il a lu aussi beaucoup de choses qui n'ont jamais été publiées, ou alors il a lu des trucs que j'ai écrits sous pseudo et que personne n'a jamais su. D'ailleurs, des trucs très 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 érotiques que j'ai écrits sous pseudo. Et oui, il y a un certain temps. Et donc il a l'habitude,
il
en fait,
des choses dans la Pléiade. Et, oui.
Et en fait, il est capable de dire
pseudo masculin ou féminin.
Ah, les deux.
Dominique.
Something like that. Et donc je l'écoute. Je ne suis pas toujours d'accord. Et en revanche, après, avec l'éditeur, c'est toujours compliqué, je trouve, d'entendre... c'est toujours une petite bataille pour moi. Je suis rarement d'accord. Je suis prête à écouter ce qu'on me dit.
Mais c'est tout.
Mais c'est pas facile, en fait. C'est pas facile.
Moi, je suis super susceptible, moi. C'est compliqué, ouais. D'ailleurs.
C'est très, très compliqué.
Par exemple, moi, je fais pas trop lire. Enfin, je fais lire à ma femme, mais elle ne peut pas me dire la vérité. Si elle me dit qu'elle aime pas, c'est, je vais être déprimé.
Non, mais pas tout, tu vois, un petit passage.
Au fond divorce, du gouffre du...
Moi, il me dit les choses.
C'est très, très difficile. Mais c'est dur. C'est difficile d'entendre la vérité et de trouver des gens capables de vous la dire.
Mais oui.
Et moi, je préfère que ce soit mon éditeur.
Mais où mon éditeur, il peut me le dire. Tes lecteurs cobayes, là. Au hasard ou des amis
Alors en fait, c'est soit d'autres auteurs que j'ai rencontrés assez tardivement ou alors qui font partie de la même maison d'édition ou à qui j'ai donné un petit coup de pouce. Je sais Gaëlle Nohan, par exemple, dont j'ai beaucoup défendu le travail, que j'adore ses livres. Et comme je sais qu'elle lit l'anglais, je lui ai demandé si elle voulait lire The Rain Watcher, Sentinelle de la pluie. Elle a dit oui. Après, je me suis dit, mais t'es folle, tu la connais pas très bien. Et donc, en plus, elle l'a lu sous mes yeux, ce qui est horrible.
Ah non, ça, c'est atroce.
Oui,
enfermée
je sais.
À
non, 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 elle était chez moi. Elle était chez moi et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça?
C'est pas mal, c'est vraiment.
Ah, pourquoi t'as ri, là? T'as ri à quoi, là?
Et après, je me suis barrée, en fait, parce que je trouvais ça insupportable. Mais en fait, c'était très intéressant, parce que je la connais pas très bien, mais j'aime son travail. Et en fait, il y a eu un échange intéressant.
Alors, est-ce que quand on lit vos œuvres, on sait qui vous êtes, Aurélien Bélanger ?
Ah, c'est une bonne question. J'ai toujours tendance à pas mettre du tout d'intime dans mes bouquins, mais je pille vraiment largement plein de choses de ma vie. Et puis un mélange s'opère. Des fois, c'est un peu flou. Il commence à m'arriver. Par exemple, je sais que dans mon dernier roman, il y a un rêve. Je sais pas si je l'ai vraiment rêvé ou si je l'ai inventé. Et je suis sincèrement incapable de le lire. Donc, il commence à y avoir des petits effets comme ça d'indécision qui s'opèrent. Non. Enfin, il y a quand même deux écoles. Il y a l'école. C'est pas du tout grave. Je pourrais avoir publié École Salinger, enfin, on pourrait ne pas me connaître, ou Pynchon, on pourrait ne pas me connaître et ça ferait aucune différence. Et il y a aussi l'école, ce que disait Houellebecq récemment, c'est que peu importe quasiment la qualité de ce qu'on écrit, ce qui compte, c'est de se raconter entièrement en tant qu'individu et de raconter la totalité de son point de vue sur le monde. J'ai pas arbitré, en fait, entre les deux, ouais.
Joël Dicker, on sait qui vous êtes en vous lisant?
Je pense qu'on pourrait le savoir, mais qu'on ne le voit pas immédiatement ou qu'on regarde pas dans la bonne direction. Je crois que c'est dans ce qui n'est pas dit, c'est dans la projection que peuvent faire les personnages, dans les thématiques, dans tout ça, on peut avoir une image. Je crois que on connaît quelqu'un pas par rapport à ce qu'il fait ou à ce qu'il est, mais par rapport à ce qu'il pense, par rapport à ses peurs. On peut se demander pour ses meilleurs amis, voilà, est-ce que je sais quel est son rêve le plus fou et quelle est sa plus grande peur. Et souvent, c'est les points essentiels de la connaissance de quelqu'un. Je crois que mes livres peuvent le refléter.
Élie Nothon.
Oh oui, je suis sûre que mes livres sont beaucoup plus vrais que moi. Que s'il y a quelque chose de vrai en moi, c'est dans mes livres.
Plus vrai que vous?
Infiniment plus vrai que moi.
Philippe Génada.
Moi, je pense qu'on sait à peu près qui je suis. En tout cas, plus j'écrirai de bons livres, plus on saura qui je suis. Pour l'instant, on sait aussi ce que j'ai envie qu'on sache que je suis. Mais ouais, j'ai l'impression qu'on soit... Comme si un bon peintre, vraiment un bon peintre, faisait un portrait de moi, donc en déformant un peu, pour mettre vraiment ma... Je me dis que voilà, on sait à peu près c'est de cet ordre-là. J'espère. Moi, je me dis, comme j'ai dit tout à l'heure, plus j'écrirai bien, plus on saura
qui vous êtes,
qui je suis en lisant mes livres. C'est le but ultime.
Et Leïla Slimani, vous dites, c'est pas moi.
Non, moi, je pense qu'on peut voir dans mes livres qui j'aimerais être ou quels sont mes fantasmes, même s'ils sont
monotueuses.
C'est ça, c'est plutôt mes fantasmes les plus sombres, mais des espèces de projections maléfiques de moi-même, mais certainement pas qui je suis. Non.
Tatiana de Ronay, on sait qui vous êtes.
Non, je sais pas, et à vrai dire, je m'en fiche un peu, parce que c'est pas pour ça que j'écris, donc je crois que dans la vraie vie, les gens savent à peu près qui je suis, enfin ceux que j'aime et ceux qui m'aiment, mais je sais pas, non, et c'est pas très important pour moi.
Frédéric, on sait.
Malheureusement, oui. Et ça dépend des romans. Ouais. Il y a des romans où je parle pas que de moi. Et il y a des romans où peut-être je trahis davantage en parlant des autres.
Et puis il y a différents Frédéric dans les différents romans. Dans un roman français, c'est pas la même chose que 99 plus... francs, c'est pas la même personne.
Il y a des livres plus spectaculaires et d'autres plus.
C'est éclairé à chaque fois d'une manière différente.
Moi, je trouve que toi, tu es vraiment collé à tes livres. Même, je trouve qu'on te connaît. Enfin, moi, je vois un peu les deux, les livres et toi. Je trouve que ce soit des romans comme ci ou comme ça, tu es dans tes livres vraiment. L'impression qu'on
donc, je suis le bon critère d'Anne Catherine.
Oui, exactement.
Ah, tant mieux.
Très bien. Qui vous impressionne aujourd'hui? Quels sont les auteurs vivants qui vous impressionnent?
Amélie Nothomb, Aurélien Bélanger.
Ah, oui.
Haruki Murakami.
Toni Morrison, moi, je crois.
Franzen.
J'allais dire aussi Franzen. Ouais. Et Philippe Roth, mais...
Joyce Carol Oates.
Franzen, il travaille vraiment, en fait. C'est un des rares écrivains que je connaisse. On sait qu'il travaille vraiment intensément et ça se voit. Et j'ai tendance à penser, moi, le premier, que les romanciers français ne travaillent pas assez. Et là, on est face à quelqu'un qui travaille vraiment presque...
Ah, Ludmila Unitskaya aussi, l'écrivaine russe.
Ah oui,
qui est extraordinaire.
Le dernier roman. Ouais,
et magnifique, Lander. Magnifique. L'échelle de Jacob, ouais. En plus, qui m'a rappelé.
Oui, oui, parce
qu'on bah oui.
On s'est rencontrés à l'échelle de Jacob, un voilà. Bar voilà. Rue Jacob à Paris.
Ah, exactement.
Je ne sais pas où c'est. Vous nous avez oublié de citer Michel Houellebecq. Pour moi, il est très important.
Oui, c'est vrai.
Je regrette qu'il ne soit pas assis à cette table.
Mais... Il va arriver.
Margaret Atwood.
Oui.
Oui, elle m'impressionne beaucoup. Elle se renouvelle en permanence. Elle a une vision à la fois... Quand on lit ses derniers livres et quand on voit aussi The Handmaid's Tale, La Servante Écarlate, je crois que c'est le titre qu'elle a écrit en 84 et qui était capable de cette vision glaçante de ce qu'on vit aujourd'hui, elle m'impressionne beaucoup. Et puis elle garde une éternelle jeunesse. Alors je ne sais pas quel âge elle a, on s'en fout. Mais elle m'impressionne.
Enfin, est-ce qu'il y a une citation d'écrivain qui vous guide ?
Daphné du Maurier disait « Les écrivains devraient être lus, mais jamais vus ni entendus, donc je ne sais pas ce qu'on fout ici. » Je trouve ça très bien comme citation.
Moi, j'aime bien la phrase de Sartre « Un écrivain est un homme libre qui parle avec un homme libre et dont le seul sujet est la liberté. »
Moi, j'ai une bonne phrase de Kafka. Si les corneilles essaient de déchirer le bleu du ciel et elles ne savent pas que le bleu du ciel veut dire « impossibilité pour les corneilles ».
Ouais, d'accord.
Oh. Amélie Nothomb.
Chateaubriand, soyez économe de votre mépris, il y a beaucoup de nécessiteux.
Pas de phrase.
Pas de phrase, Joël.
Dans un grand roman, tous les personnages ont raison. Et je crois, j'arrive pas à retrouver qui a écrit cette phrase, je crois que c'était Faulkner peut-être. Mais c'est une phrase à laquelle je pense de temps en temps quand j'écris.
Frédéric.
Beckett, raté encore, raté mieux.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci beaucoup. Wow.